Alors nous sommes le week-end de Pentecôte et j'aimerais introduire avec d'abord ce texte de la Pentecôte en acte 2, un texte que certains connaissent bien, 2, 1 à 4. Acte 2 et nous allons lire les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et il y a plus de 2000 ans, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour se former une église, c'est-à-dire un corps, dans lequel il allait pouvoir régner, résider, agir, sauver, se glorifier. Et ce passage, eh bien, ça retrace la naissance de l'église de Jésus-Christ. Et ces quelques disciples ont littéralement été baptisés dans l'Esprit, c'est-à-dire immergés dans l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils étaient plongés, l'Esprit était partout, en eux, surtout, et en dehors d'eux. Et depuis lors, chaque fois qu'un pécheur croit en Jésus-Christ, qu'il se repent de ses péchés, qu'il comprend qu'il est séparé de Dieu, qu'il pleure sur son péché et qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il est intégré à l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est intégré au corps qui est déjà formé, donc il est lui-même baptisé dans l'instant. L'instant où il croit, où il donne son cœur, il est baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité depuis ce jour de Pentecôte. Mais qu'est-ce que l'Église du 21e siècle ? Quelle est son existence aujourd'hui ? Quel est son mode de fonctionnement ? Est-ce que l'Église a changé ou est-ce qu'elle devrait changer ? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ devrait peut-être se réinventer quelque part ? Rénover sa manière d'exister, d'être. Est-ce qu'on n'est pas à l'ère du numérique? Ça change tout aujourd'hui. Et c'est vrai que la société a complètement changé. C'est incroyable là, dans ce siècle, enfin ces 100 ans qui viennent de passer là. Oh, il y a eu des progrès incroyables. Nous sommes au temps de l'électronique, de l'image, du virtuel. C'est un temps d'information, de communication. Alors peut-être ça ne parle pas trop à l'ancienne génération, mais la nouvelle génération, elle comprend bien de quoi il s'agit. Hein. Internet, ça a révolutionné notre société dite connectée aujourd'hui. Vraiment, ça a changé. Quand on regarde Internet, c'est jeune, quoi. Hein, il y a 15 ans, il n'y avait pratiquement rien. Hein. Est-ce que l'Église devrait se réinventer face à ces progrès, à ces changements ? Nous sommes aujourd'hui dans le dépassement des frontières. Il n'y a plus de frontières. C'est incroyable. De moins en moins de limites d'espace et de temps. On peut communiquer au Japon et aux USA comme on communique avec son voisin de palier. C'est de la même manière. Et puis, il y a quelque chose qui existe depuis peu et qui a pris une ampleur aussi phénoménale. Ce sont tous les réseaux sociaux. Vous avez un ordinateur, vous avez juste un petit ordinateur, un téléphone portable, un smartphone, et soudain vous êtes en contact avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes tout autour de cette terre, un peu partout ou dans le pays. Et il y a des échanges, il y a des conversations, des envois de photos, des vidéos, des émotions, des avis partagés. C'est l'interaction sociale qui n'est plus localisé à quelques personnes dans une pièce, mais voilà, qui dépasse les frontières, hein, qui est aux quatre coins de la planète. Est-ce que c'est quelque chose qui touche et qui change les rapports au sein du corps de Jésus-Christ ? Ben, quand même, certainement, il y a quelque chose qui le touche. Hein. Alors peut-être ça touche moins évidemment ceux qui n'ont pas grandi avec Internet. Hein, ils ont plus de distance vis-à-vis de ces choses. Mais la nouvelle génération qui est née avec Internet, ben elle, ça la touche particulièrement. Et aussi dans le monde chrétien, c'est évident. Et il est légitime de dire que même si Internet, ça peut véhiculer le pire, le plus sale, le plus hideux, le plus vulgaire, c'est aussi un moyen qui partage la vérité. La vérité se répand, hein, elle parcourt toute la planète. Et la parole de Dieu se répand aussi par le biais des réseaux sociaux. C'est indéniable. Et puis, du fait des vidéos, de YouTube, etc., ben, y a plein de prédications. La parole est prêchée. Et Dieu se sert. Il se sert aussi de moyens pour répandre la parole de Dieu sur toute la surface de la planète. Et c'est aussi, hein, Jésus a dit, hein, quand bien partout on entendra l'évangile, quand l'évangile aura atteint toutes les nations, alors eh bien, il reviendra. Alors certes, il y a encore des tribus, hein, qui n'ont pas d'internet, et celles-là, eh bien, Dieu est en train de leur faire parvenir aussi la parole de Dieu. Mais face à cette révolution et cette évolution dans la société et de la société chrétienne, est-ce qu'on peut se passer de l'église locale? C'est ma question. Est-ce que ces changements obligent à réinventer l'église? On sait que l'église nous parle de l'église, pardon, que l'écriture nous parle de l'église universelle. Donc l'église universelle, c'est l'assemblée de tous les chrétiens, de tous les temps, partout. Et puis aujourd'hui, ben, l'assemblée de tous les chrétiens qui est partout sur toute la terre. C'est l'église universelle. Et de la même manière que les incroyants disent « Oh, moi, je suis citoyen du monde, hein. Je n'ai pas de pays en particulier, moi je me considère citoyen du monde. » On peut aussi entendre quelque chose comme « Ah, ben, moi je suis citoyen du ciel, je fais partie de l'église universelle, je n'appartiens à aucun groupe. » On l'entend? Et oui, c'est vrai. Nous faisons partie de l'Église universelle. C'est indéniable aussi. Et un jour, nous serons tous réunis dans la présence de notre Dieu, notre Roi, et ça sera merveilleux, on va le louer ensemble, et nous serons qu'une seule assemblée, une grande, une immense assemblée, avec un même cœur, une même âme, une même adoration pour notre Dieu. Mais peut-on aujourd'hui, ou devrait-on, se passer de l'Église locale ? C'est-à-dire d'une assemblée de chrétiens dans une localité, dans une ville, à un endroit précis, et qui se réunissent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors je vais prendre le parti de ceux qui pensent comme cela, et qui peuvent au moins avancer quelques arguments. Par exemple, ils peuvent dire, mais ça sert à rien d'être dans une église locale, parce que souvent, il y a plein de problèmes. Parfois, ils se déchirent, ils se disputent, ils se querellent, il y a des conflits, il y a du péché. Alors, qu'est-ce que répondre à cela? Alors, c'est vrai, on le dit, hein, il n'y a pas d'église parfaite, c'est l'assemblée au ciel qui sera parfaite. Et nécessairement, dans une assemblée, vous allez trouver de l'imperfection. C'est normal, puisque l'église est un rassemblement de personnes encore imparfaites, des pécheurs. Et on est tous en chantier, on est en train de progresser, on est en train d'être sanctifiés par Dieu. Mais il faut se souvenir que l'église locale, ce n'est pas une idée de l'homme, c'est une idée de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que l'église locale soit ainsi. C'est Dieu qui a formé des groupes de personnes sauvées par la grâce, sauvées par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui a permis que la sanctification s'étale dans le temps. Il aurait pu faire que celui qui croit, celui qui naît de nouveau, hop, il est parfait, sans péché. C'est ce qu'il va faire. Hein. Le jour où il va nous prendre avec lui, en un instant, la question du péché sera définitivement réglée. Mais pourtant, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi tant qu'on est sur terre. Au lieu de cela, il a voulu que la sanctification soit un processus qui s'opère dans le temps. Ça prend du temps. C'est un travail qu'il est en train d'opérer en nous et surtout avec nous. Il y a les deux, en nous et avec nous. Et lorsque vous lisez les épîtres, vous voyez non seulement les églises locales, il y a plein d'églises locales, l'église qui est à Corinthe, l'église qui est à Éphèse, à Colosse, à Thessalonique, mais en plus, vous voyez les responsables, Paul et les autres, qui n'ont de cesse que de reprendre, que de corriger, que d'exhorter, que d'encourager, que de pousser au pardon, à l'amour. En fait, voilà, ils révèlent que dans les églises de l'époque, les premiers chrétiens, ils étaient imparfaits, ils avaient des péchés. Mais est-ce que la solution c'était « Ah ben non, moi j'y vais pas parce qu'il y a du péché ». Non, c'était « J'y suis, je règle mon péché, je me réconcilie, je demande pardon, j'avance, je progresse, je me sanctifie et je m'en sanctifie avec mes frères et sœurs ». C'est une histoire attachée à l'église locale et telle que Jésus l'a voulu. Et il y a un bienfait parce que ça contribue à notre sanctification. Et si je prends cette excuse pour ne pas aller à l'église, alors je désobéis à Dieu et en plus je me prive de changer. Parce que si moi je ne me sanctifie pas dans le contact avec les autres, eh bien je ne change pas. Et je pense que tout va bien. Alors que, eh bien, ça ne va pas forcément bien. La volonté de Dieu, c'est d'être en contact les uns avec les autres et de nous sanctifier les uns par les autres. Un autre argument contre l'église locale, c'est qu'il y a trop de différences dans les églises locales. Toutes ces dénominations, bon là là, on s'y perd, franchement, c'est pas possible. Hein, et on ne sait plus où est la vérité. Où est la vérité ? Donc moi, je préfère me tenir à l'écart. Hein. Je les laisse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors, c'est vrai, l'Église de Jésus-Christ est diversifiée. C'est clair. Elle n'est pas uniforme. Elle est variée. Elle est vraiment très variée. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais finalement, elle reflète les chrétiens qui l'animent. Chaque Église a une identité, a une manière de faire, d'être. C'est son identité. Mais Dieu l'a voulu aussi ainsi. De la même manière qu'il y a une grande diversité dans la création, dans l'humanité. Tous les arbres ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et Dieu a permis que toutes les églises locales ne soient pas pareilles. Il y en a un peu pour tous les goûts. Et ça, c'est juste un constat que je fais. C'est une réalité. C'est l'église de Jésus-Christ. Et à la question, mais qui est dans la vérité ? Ben, je vais vous le dire. D'abord, tous ceux qui le connaissent, lui, personnellement. Ils sont dans la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et s'ils sont en lui, ils sont dans la vérité. C'est une réalité. Jésus a encore dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Il a encore dit « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Où est la vérité ? La vérité est là où il y a des croyants qui sont en train de se rassembler en son nom et qui sont nés de nouveau. Des enfants de Dieu, nés par la foi, par la grâce. La vérité est là. Jésus-Christ est là. Oui, mais là, ils disent qu'il faut faire comme ça, et puis là, ils disent qu'il faut faire comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est votre conviction ? Est-ce que vous avez pris les Écritures pour chercher qu'est-ce que Dieu dit ? C'est ça qui est important. Dieu dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, il faut vivre par conviction. Si je suis convaincu que ben, c'est mieux là, je pense que ça correspond mieux à ce que Dieu veut, ben, c'est là qu'il faut être. C'est à nous de nous former des convictions sur ce qui est secondaire. Parce qu'on est en train de parler de choses secondaires. Moi, j'ai aucun problème de communion. Je veux dire, sur les vérités essentielles de Dieu avec tous mes frères et sœurs qui sont vraiment nés de nouveau. C'est des enfants de Dieu, j'ai plaisir à les voir, à les croiser, à parler avec eux. Ils sont enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu. Là, on est en train de parler de choses qui sont secondaires. Et il faut rester respectueux de l'ensemble du corps de Christ, même si nous, on ne ferait pas comme ça. Ou si nous, là, sur ce point-là, on n'est pas trop d'accord. On reste respectueux de l'ensemble du corps de Christ. Parce qu'il y a forcément une assemblée de chrétiens avec qui on peut grandir, on peut mûrir, on peut s'épanouir en Jésus-Christ. Une assemblée avec laquelle vous pouvez être en communion. Et vous savez, la grande diversité et la grande variété du corps de Christ fait que nous n'avons aucune excuse pour nous tenir à l'écart. On n'a aucune excuse. Parce qu'il y a forcément chaussure à notre pied, si je peux dire. Il y a forcément une église où on peut mûrir, grandir avec Jésus-Christ. Et donc la diversité, elle n'est pas un handicap, mais c'est plutôt un bienfait. C'est justement une manière d'atteindre le plus grand nombre. La dernière fois, je regardais une prédication d'un frère gitan qui prêchait dans la rue et de voir ces personnes qui écoutaient. Et je dis, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que ce qu'il dit, la manière de le dire, je ne pourrais pas le faire. Parce que ce n'est pas ma manière de faire, d'être. Je ne suis pas lui. Je n'ai pas la même culture non plus. Alors, gloire à Dieu. Et il se sert de lui, ça porte du fruit, les âmes sont sauvées, gloire à Dieu. On atteint le plus grand nombre de personnes. Et finalement, dire, je vais nulle part, parce que je n'ai pas trouvé une église qui me convient, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Alors, c'est vrai, dans certains cas exceptionnels, mais c'est souvent une excuse de la chair. C'est souvent une excuse. Et parfois, certains font 30, 40, 50, 60, 80 kilomètres pour aller à leur église locale régulièrement. C'est pas exceptionnel, ça. Hein, on le voit hein, un peu partout. Combien font des dizaines de kilomètres pour aller travailler parce qu'ils chérissent leur maison à la campagne? Mais ils sont foules. Des centaines et des centaines, des milliers de personnes ont une belle maison à la campagne, ils la quitteraient pour rien au monde. Et ils sont prêts à faire 100 km pour aller travailler tous les matins. Ça arrive tout le temps. Nous, est-ce qu'on aime Dieu? Si on aime Dieu, on va le suivre. Il y a forcément une église qui nous correspond quelque part. Il faut chercher, prier, demander à Dieu. Je reviens sur cette question. Est-ce qu'on peut se passer de l'église locale? Est-ce qu'on peut se contenter d'une église virtuelle? Une église délocalisée? Une église disséminée un peu partout, sur toute la planète? Une église avec un chrétien à droite, et puis on prie avec un autre par Internet? On partage encore avec un autre dans une autre ville? Est-ce que l'église numérique peut remplacer l'église locale? C'est ça la question. Quand vous prenez la Bible, Dieu parle abondamment de l'église locale. En fait, vous prenez les épîtres, mais c'est presque toutes les épîtres en fait, parce que c'est adressé à des églises locales. Donc il y a plein de versets qui en parlent. Et je pense que si un chrétien aime Jésus, selon ce qu'il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si un chrétien aime Jésus, alors il ne va pas pouvoir faire abstraction des versets que nous allons lire ensemble. Ce n'est pas possible, logiquement. Quand vous regardez l'assemblée, l'église locale d'une ville, c'est un lieu de rassemblement pour plusieurs choses. Et si Internet, c'est vrai que ça peut pallier... parfois, dans des cas exceptionnels, on est malade, en mauvaise santé, on peut pas sortir. Hein. Jamais ça ne pourra remplacer l'église locale. C'est ce que nous allons voir ensemble. D'abord un verset que je vous ai lu tout à l'heure, Colossiens 3:16. Colossiens 3:16. Il dit ici que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ici, vous pouvez voir l'adoration finalement du chrétien. C'est certain que sur Internet, vous allez trouver plein de beaux cantiques. On peut être édifié par des milliers et des milliers de cantiques sur Internet. C'est une vraie bénédiction. On trouve aussi plein de prédications édifiantes. C'est indéniable. Et donc, il y a moyen d'écouter, il y a moyen de se nourrir, de se stimuler dans la foi. Mais il y a une petite expression ici que le numérique ne peut pas donner. c'est l'expression « les uns les autres ». Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et à travers cette expression, on voit quelque chose de communautaire. Ce n'est pas l'un l'autre, hein, mais les uns les autres, c'est différent. Il y a une notion de nombre, une notion de groupe. Il ne faut pas oublier non plus que Paul est en train d'écrire une lettre aux Colossiens, à l'ensemble des Colossiens. Il n'est pas en train d'envoyer un tweet à quelqu'un, hein. Il écrit une lettre pour l'ensemble des chrétiens de Colosse et bien plus, puisque c'était des lettres qui étaient destinées à être lues dans les autres assemblées. Donc c'était pour l'ensemble des assemblées. Et il y a une notion de partager la parole ensemble, de chanter des louanges ensemble. Paul, finalement, exhorte à un culte d'assemblée, un culte ensemble. Bien sûr, on peut louer Dieu tout seul dans sa chambre, louer Dieu devant un écran d'ordinateur, mais ça n'a rien à voir avec une adoration commune, où on est ensemble en train d'élever nos cœurs et nos voix vers Dieu. Depuis 2000 ans, l'Église s'est réunie de cette manière, à louer Dieu de cette manière. Quand nous serons dans l'éternité, on sera tous ensemble. Hein. Chacun ne sera pas dans sa demeure en train de regarder un écran pour louer Dieu. On sera tous ensemble et on louera Dieu. Aujourd'hui, au 21e siècle, dans cette petite partie du 21e siècle, ce n'est pas une parenthèse où Dieu dit « Maintenant, c'est différent. Il faut réinventer l'Église. » Non. Non. C'est la volonté de Dieu. Il y a une nécessité de se réunir ensemble. Acte 2, verset 42. Un verset que vous connaissez, mais tellement riche. Acte 2, verset 42. Il est dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et il y a bien sûr quatre choses ici qui sont attachées à l'Église locale dans un seul verset. D'abord, l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et dans un premier temps, c'était les apôtres eux-mêmes qui dispensaient l'enseignement, forcément. Mais leur enseignement est resté par leurs écrits que nous avons. Et c'est évidemment quelque chose de très important dans l'Église locale. C'est là où on va prêcher les Écritures. Bien sûr, on peut écouter, si on est un simple auditeur, on peut écouter une prédication chez soi ou l'écouter dans une assemblée locale. C'est pareil, parce qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu et Dieu nous bénit par des prédications qu'on écoute sur Internet, sans aucun problème. Et il y a même un très grand choix. Mais justement, c'est peut-être justement ce qui différencie une église locale d'Internet. C'est que lorsque vous êtes chez vous, c'est vous qui décidez ce que vous allez écouter. Faites votre choix, selon votre cœur, selon vos envies. Et si vous n'avez pas envie, vous n'écoutez pas. Voilà. Tandis que, quand vous venez dans une assemblée locale, ce n'est pas vous qui décidez. C'est Dieu qui décide pour vous, là. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui pousse. Et là, vous recevez ce que Dieu veut vous donner. Et même, c'est à l'insu de la personne qui le donne, du prédicateur ou du serviteur. C'est à son insu. Parfois, il dit quelque chose, il n'en a même pas conscience, il n'y pense pas du tout, et puis vous le recevez. Et Dieu se sert de ça. On se souvient de Pierre qui est allé voir Corneille et ses amis. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Voilà. Et maintenant, on est là tous ensemble, on est prêt à recevoir ce que tu veux nous dire de la part de Dieu. Recevoir de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans une église locale. Dieu répond, Dieu parle, Dieu encourage, Dieu reprend, Dieu surprend. Bien sûr, si on écoute la parole de Dieu partout, on sera édifié, et notamment sur Internet. Et c'est pas sans intérêt, au contraire, hein, c'est bien de s'édifier et continuer à apprendre et se nourrir. Mais il y a quelque chose de différent dans une écoute régulière de la parole et quand ça s'impose à nous et que ce n'est pas nous qui choisissons. Et c'est ce qui s'est passé depuis le jour de la Pentecôte. Les chrétiens se sont réunis ensemble pour écouter la parole de Dieu. Une autre chose dans ce verset, c'est la communion fraternelle. Et certainement, il y a une forme de communion fraternelle. Quand on s'échange quelque chose sur des réseaux sociaux, par un email, par des textos même, mais rien ne pourra remplacer une communion vécue. Le fait de se voir, de s'écouter, de s'entendre, de s'aimer, ça, on ne peut pas le remplacer ça. Aujourd'hui, tous les moyens modernes font parfois office de filtre et ça empêche de vraiment connaître les personnes. On ne les connaît pas vraiment. Et facilement, vous le savez, on peut avoir des centaines et des milliers d'amis, hein, vous connaissez ça, et on ne les connaît pas du tout. On ne les connaît pas. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. L'amour ne peut pas s'exprimer par le biais du numérique. Je me souviens lorsque j'étais un jeune chrétien, peut-être 2 ans de vie chrétienne, donc j'étais dans le nord de la France, je suis parti à Paris, et le temps est passé vite, et puis à un moment je me suis aperçu, mais mince, ça fait longtemps que je ne me suis pas soucié, que je n'ai pas pris des nouvelles, que je n'ai pas écrit à mon église de naissance, à mes frères et sœurs. Alors j'ai écrit une lettre, et puis voilà, je leur ai raconté un petit peu ce que je vivais, et dans laquelle j'ai dit « Je vous aime ». C'est facile d'écrire « Je vous aime ». C'est vraiment facile d'écrire ça. Et lorsqu'on ne voit pas les personnes, lorsqu'on ne vit pas avec elles, c'est facile d'aimer. Moi, j'aime le monde entier. J'aime tout le monde derrière mon écran. J'aime tout le monde, vraiment, sans aucun problème. Mais c'est autre chose que de rencontrer semaine après semaine les mêmes personnes et de voir leurs défauts, de voir leurs faiblesses, de voir leurs péchés parfois, de supporter des choses qui vous déplaisent en eux. Vous aimez pas ça. De devoir pardonner parfois parce qu'on vous a blessé. De devoir servir, sacrifier, s'offrir pour les autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça, l'amour. C'est ça, aimer. Ça ne passe pas par des câbles ou de la fibre. Hein. Cet amour-là, il n'arrive pas à passer. Ça se vit au contact des personnes qui sont faites de chair, d'os, de sentiments, de volonté. C'est ça qui manifeste l'amour. Alors ça fait plaisir de recevoir un email par internet. Une attention, un smile, un j'aime pour une photo. Mais c'est autre chose que d'être pris dans ses bras quand on ne va pas bien. Que de recevoir un regard qui dit « je te comprends ». Que d'avoir une écoute qui est aimante, pleine d'attention. Dans une rencontre avec des frères et sœurs où vous sentez l'amour. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Ce n'est pas superficiel. Ensuite, le verset nous parle de la fraction du pain. Et bien sûr, ça, c'est pas possible en dehors de l'église locale. Ça passe pas par Internet. Hein. Pas encore, en tout cas. Il faut se rencontrer physiquement pour partager le pain et le vin ensemble. Et Dieu a instauré la scène pour être prise régulièrement. Et que régulièrement, on se souvienne de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. De son sang versé. De son amour manifesté. Il a voulu, c'est un commandement du Seigneur. Et ne pas aller à l'église locale, c'est se priver d'obéir au commandement du Seigneur, de prendre la scène. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, le verset nous parle des prières. Il persévérait dans les prières. C'est facile de prier les uns pour les autres chez soi, et on devrait le faire. Il est dit, priez pour tous les saints. Donc, on devrait le faire. Mais on ne peut pas persévérer ensemble dans les prières. Ça, ce n'est pas possible. Je ne vais pas prendre tous les versets qui parlent des prières qui sont faites en commun dans le Nouveau Testament. Si vous cherchez, vous allez en trouver plusieurs. Hein. Mais c'est une vraie bénédiction d'intercéder ensemble avec des frères et sœurs. Et ceux qui le vivent le savent. C'est quelque chose. Et malheureusement, si beaucoup de frères et sœurs parfois sont affaiblis, se sentent faibles, c'est souvent aussi parce qu'ils se privent de passer du temps dans l'intercession ensemble, de partager les fardeaux et dire « Priez pour moi, je prie pour vous, priez pour moi. » Et on prie ensemble et on élève la voix à Dieu. Combien de fois on m'a dit « Oh ben, j'avais pas envie de venir, juste après la réunion de prière, j'avais pas envie de venir, mais combien je suis content d'être venu, ça m'a fait du bien. » Ça arrive tout le temps, parce qu'on est béni des prières des autres, hein. Ça nous rapproche de Dieu parce que c'est les autres qui s'approchent, qui entrent dans les lieux célestes. Et vous, vous êtes aspirés dans les lieux célestes. Et ça vous renouvelle. Ça vous stimule. Ça. Voilà, vous êtes avec Dieu dans la prière. Vous redescendez. Oh, merci Seigneur. Allez, on continue. On marche avec le Seigneur. Acte 2, 46. Acte 2, 46, le verset dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » On voit ici ce qui était la première église. Ils ont un lieu où ils se rencontrent tous ensemble assidûment. C'était le temple de Jérusalem. Et puis, ils passent à côté du temps ensemble. Ils se voient dans les maisons. Il y a les deux. Et Jésus faisait pareil. On vient de l'étudier cette semaine dans l'étude biblique. On est en train de faire Luc 4, 16. Il est écrit que selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il avait l'habitude. C'était sa coutume. Il y allait à chaque fois. Pourtant, c'était le bâtiment officiel. C'était un bâtiment officiel où les croyants se réunissaient. Mais depuis son enfance, Jésus allait à la synagogue. Il était habitué à y aller probablement avec Joseph, son père. Et Jésus s'y sentait à sa place. Il ne boycottait pas le bâtiment en se disant « Oh là, c'est un bâtiment, hein ?» Où on trouve la synagogue dans les Écritures ? Nulle part. Mais c'est simplement, c'était un lieu, point. Un lieu de rassemblement des croyants, des enfants de Dieu. Et à côté de cela, ben, il était dans les maisons aussi. Et il était souvent à la synagogue, chaque sabbat, et souvent, on le lit dans les versets qui suivent ensuite. Et puis il était souvent aussi dans les maisons, à partager le pain, à enseigner, à avoir une communion. Il y avait les deux. Dans le livre des Actes, on lit que Barnabas et Saul se réunissaient à Antioche aux assemblées de l'Église et ils y ont enseigné beaucoup d'hommes. Donc là encore, c'était les lieux de rassemblement habituels de l'Église. Ça pouvait être dans une maison, mais ça pouvait être aussi dans un lieu plus vaste où tous pouvaient être ensemble à Antioche. Une autre chose qu'il n'est pas possible de vivre sans église locale, c'est le baptême, évidemment. Pour être baptisé, ben, il faut de l'eau et il faut une assemblée. Or, bien sûr, il suffit d'être deux pour baptiser, vous me direz. Du moment que vous êtes à la maison, une baignoire, une autre personne, et puis il y aurait apparemment moyen d'être baptisé. On peut citer l'eunuque éthiopien. Mais quand vous regardez l'eunuque éthiopien, ce qu'on oublie, c'est que son histoire, l'histoire de l'eunuque, elle n'est pas restée privée dans le désert. Non. Elle est devenue un des baptêmes les plus connus de l'histoire de l'Église. Parce que c'est Dieu qui nous a rendu témoignage de l'histoire de l'eunuque et de son baptême. Ça s'est répandu et c'est un témoignage. Et le baptême est une manière de partager, de témoigner de sa foi. C'est quelque chose qui se montre. C'est dommage de le vivre seul. Parfois, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen, hein, ça arrive. Mais c'est dommage parce que c'est un témoignage pour les hommes. En tout cas, ça ne peut pas se vivre par Internet. On a réussi à proposer la prière par Internet, mais on n'a pas encore proposé le baptême. Donc, Ensuite, l'expression des dons. L'église locale est une manière d'exprimer les dons de l'esprit, tout ce que Dieu nous accorde par sa grâce. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais c'est clair, c'est dans l'église locale, dans le corps de Christ, qu'on va participer à l'édification commune, comme il est écrit dans 1 Corinthiens. Une autre chose, c'est que l'église locale est un moyen d'envoyer des missionnaires. Quand on lit Actes, on peut lire Actes 13, versets 1 à 3. Actes 13, versets 1 à 3. Il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et il y a un autre aspect ici de l'église locale, c'est qu'elle envoie des missionnaires. C'est dans l'église locale que Dieu va susciter des serviteurs et qu'il va les envoyer sur le champ de mission. Et ici, vous voyez Barnabas donc, qui va partir avec Saul, Paul. Et c'est pas que, ben, ils partent, puis allez, on les revoit plus, au revoir. Non, ils sont partis, ils ont évangélisé, et puis le chapitre suivant, vous les voyez revenir. Et là, ils convoquent l'assemblée, ils disent, mais venez, venez. Ils se rassemblent, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un rapport. Et ils vont expliquer comment, eh bien, la bonne nouvelle s'est répandue parmi les nations. C'était vraiment des missionnaires. Et l'Église les avait à cœur, priait pour eux, intercédait pour eux. Et l'Église, c'est aussi une bénédiction pour cela. Quand on est ensemble, on peut faire davantage. Ensuite, l'Église locale, c'est aussi une bénédiction pour les frères qui sont dans le besoin autour de nous. On lit, par exemple, dans 2 Corinthiens, comment les églises de la Macédoine ont rassemblé des dons pour les envoyer à l'église de Jérusalem, qui avait des besoins. Et Dieu nous parle abondamment de la générosité, de la libéralité, et du fait d'aider, eh bien, le corps de Christ, les frères et sœurs, les serviteurs, ceux qui en ont besoin. Celui qui sème peu, moissonnera peu, dit le Seigneur. Et l'église locale, eh bien, c'est aussi clairement, ça ne plaît pas à tout le monde ça, un instrument de Dieu pour nous apprendre à gérer l'argent qu'il nous confie. Dieu s'en sert. Dieu ne force personne, mais il invite à la générosité et à redonner finalement ce qu'il nous donne, ce qu'on reçoit. Maintenant, c'est certain que le chrétien qui fait partie de l'Église universelle et qui ne se sent pas concerné par une Église locale, bah, il s'estimera plus heureux parce qu'il se dit « j'en ai plus dans mes poches, hein. Tant mieux ». Mais finalement, je ne suis pas sûr que ce soit une bénédiction pour lui, hein. Selon ce que dit la parole de Dieu, à mon avis. Un chrétien fidèle le sait. Quand il donne, il manque de rien. Quand il garde, il manque de tout. Ça, c'est un principe biblique. Ensuite, et j'arrive bientôt à la fin, c'est un témoignage, l'église locale est un témoignable visible dans la localité, forcément. Jean 13, versets 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce verset nous renvoie au fait que l'église locale est un témoignage dans la localité. Et quand vous regardez l'église, en soi, c'est un miracle. Qu'on soit ensemble, c'est un miracle. Jeunes, vieux, modestes, voilà, qui vont mieux financièrement, c'est un miracle. Des gens plutôt intellectuels, d'autres plutôt manuels, des gens sportifs, des gens qui n'ont rien à faire du sport. C'est un miracle. Un miracle. Mais c'est Dieu, ça, qui arrive à conserver des gens ensemble, qui s'aiment et qui partagent. Le Seigneur dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour, eh bien, il peut se voir justement, quand on se rencontre, quand on invite, quand on vit un minimum de temps ensemble, on partage ces moments. On les partage ensemble et on les partage avec les autres parce qu'on les invite. eh bien, il voit le reflet de l'amour du Seigneur. C'est un témoignage qui parle. Alors, je termine. Est-ce qu'un chrétien du 21e siècle peut se passer de l'église locale? Est-ce que c'est possible de réinventer l'église? Est-ce que être membre de l'église universelle, ça suffit? Tout va bien. J'aimerais prendre un verset qui m'a toujours beaucoup parlé dans les Écritures. C'est Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18 et verset 1. Il dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » J'aimerais vous le dire dans d'autres traductions. Alors écoutez, « Celui qui s'isole suit son inclination, il s'obstine contre toute raison. Celui qui vit à l'écart suit son bon plaisir. » Contre tout conseil, il se déchaîne. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Et ce verset met à nu une vérité. C'est que Dieu ne nous sauve pas pour que nous nous isolions et que nous vivions à l'écart de l'église locale. Quand on se tient à l'écart, enfin, moi, je l'ai vu pour ma propre vie. Hein. C'est jamais bon signe. C'est vraiment pas un bon signe. Parce que le Saint-Esprit, il nous pousse au contraire vers Dieu et vers les frères et sœurs. L'Esprit nous pousse dans cette direction. Donc, si moi, je pousse dans l'autre direction, c'est pas Dieu. Hein. C'est la chair. Comme les roues du vélo, hein, on a vu, les rayons vont au centre, hein, vers Dieu. Quand on le prend pour image. C'est pour ça qu'il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Littéralement, ce verset, c'est pas « Ne quittez jamais votre église locale de toute votre vie. » C'est pas ça. C'est « N'abandonnez pas le fait de vous rassembler habituellement, de passer, n'abandonnez pas ça, le fait de passer du temps ensemble régulièrement. » C'est difficile d'avoir une bonne habitude, une saine habitude, et c'est très facile de la perdre. Incroyable. Les bonnes habitudes, on peut les perdre, mais vraiment facilement. Et la fidélité et la constance pour voir ses frères et sœurs dans l'église locale, ça devrait être un réflexe automatique, comme se laver les dents. Un réflexe. Quelque chose, on n'a pas besoin de le réfléchir. Vous savez, si vous vous dites le dimanche matin, bon, est-ce que j'y vais ce matin ou pas? Je sais pas. C'est que vous n'avez pas une bonne habitude. Hein. Vous ne devriez même pas vous poser la question. On ne se pose même pas la question. Est-ce que vous vous demandez si vous vous lavez demain? Vous vous laverez. C'est ça. Eh bien, quand on va à l'église, on va laver son cœur aussi. Hein. On va écouter la parole de Dieu. Si on n'y va pas, forcément on perd quelque chose. Et j'aimerais conclure avec un beau psaume, si vous voulez bien prendre, psaume 133. Psaume 133 pour terminer. Il dit, Cantique des degrés de David, voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On va s'incliner dans la prière. Père, merci. Merci de ton amour, de nous avoir aimés le premier. Et merci, Seigneur, parce que tu m'as donné, tu nous as donné aussi une famille, ton peuple, tes enfants. Merci pour la bénédiction, la joie que c'est d'avoir une communion avec ces frères, ces sœurs que j'aime, que nous aimons. Seigneur, c'est un bienfait d'être aimé, d'aimer, Seigneur, et d'être aimé de toi au travers des autres et d'aimer les autres au travers de toi. Seigneur, merci pour la famille que tu nous as donnée, pour ton peuple, pour tes enfants. Seigneur, je veux t'aimer, nous voulons t'aimer et nous voulons nous aimer les uns les autres. Père, bénis-nous, que nous nous aimions davantage, que nous nous rapprochions les uns des autres et que cet amour nous embrase et touche autour de nous. Seigneur, nous le prions et je veux te prier particulièrement pour tous les frères et sœurs qui sont isolés, seuls, parfois seuls depuis très longtemps, loin des églises, peut-être déçus, fatigués. Seigneur, ramène-les vers tes enfants. Ramène-les vers toi, dans ton corps. Redonne-leur une famille. Seigneur, rassemble tes enfants avant ton retour. Qu'aucun ne soit seul. S'il te plaît, Seigneur, bénis, rassemble. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen.